C'est beau de voir les deux casques à côté, hein. Franchement,
C'est sûr.
Transmission.
Bonjour, je vous invite aujourd'hui à rencontrer Victor Jabouille. Il y aura de la passion, de l'émotion et de la transmission. Bonne écoute. Alors, dans mes nouvelles transmissions, la course automobile est très peu présente, sauf peut-être dans Double Jeu, autour du Dakar, avec des histoires de jumelles. Et puis c'était écrit qui évoque les grands pilotes, dont un certain Jean-Pierre Jabouille. On en parlera plus tard.
Ouais.
Et puis pourtant, tu vois, moi, je pense que l'histoire de la course automobile est faite, pour moi, elle est faite de transmissions. Tu vois, Damon Hill, champion du monde de F1, bah, comme son père Ram. Keke Rosberg, et puis ensuite son fils Nico. Jackie X au Dakar, qui court avec Vanina, sa fille. Margot Laffitte, qu'on ne présente plus, qui est Trophée Andros, entre autres, puis maintenant qu'on voit sur le canal.
Évidemment.
Évidemment. Idem pour Anthony Beltoise sur M6 après des années de course, tu vois. Aurélien Panis, Nicolas Prost, qui sont pilotes pro maintenant. Bref, enfin, la liste serait longue. Bonjour, Victor Jabouille.
Bonjour, Bruno.
Jean-Pierre Jabouille a marqué l'histoire du sport automobile français avec ses victoires en F1 et surtout la première 100% française avec la R01. Qui était Jean-Pierre Jabouille?
Waouh. Alors, c'est. Bon, j'espère qu'on a beaucoup de temps en tout cas pour parler de toute cette histoire de lui. Ouais, papa, bah, si je peux me permettre, Jean-Pierre, c'était quelqu'un qui s'est battu bon, pour sa passion, pour son pays, pour ses valeurs du sport automobile. Et c'était quelqu'un qui était passionné, à la fois passionnant par tout ce qu'il a pu entreprendre dans le sport automobile. Et c'est vrai que oui, il a tant à la fois consacré plus sa carrière automobile que sa vie de famille. Et ça, il y a eu des avantages, il y a eu une réelle fierté, une réelle reconnaissance à son égard. Mais il y a eu aussi des moments auxquels ça n'a pas été facile non plus. Souvent, on idole et on admire quelqu'un de passionné, de passionnant, mais en interne, quand on vit dans la vie de famille, elle n'est pas forcément passionnante et passionnelle.
Comment il t'a transmis ce goût de l'automobile, ce goût pour les voitures, pour se retrouver derrière un volant, quoi.
Ouais. Bah, en fait, c'est marrant parce que c'est assez rigolo parce que, et à la fois contradictoire, parce qu'il était à la fois passionné du sport automobile, mais il se permettait de partager toutes ses passions, tous ces moments de partage avec beaucoup de passionnés. Mais à la fois avec ses enfants, il restait quelqu'un de très introverti et très discret. Je parle de nos enfants parce qu'il y a aussi mon petit frère, et il était assez très discret. Il n'exprimait pas ce qu'il avait vécu, ce qu'il avait découvert en fait, on va dire dans tout ce qu'il avait fait en fait dans le sport automobile. Il a voulu que ce soit plus les autres qui se permettaient de nous faire partager ce qu'il avait vécu dans le sport automobile et qu'on le découvre par nos propres moyens. Donc je pense que c'est toute la passion qui a commencé à être dévorante dès le début, d'être à la fois intrigué et très intrigant de savoir qui était mon père dans son domaine, parce que beaucoup de gens on n'a jamais eu l'occasion en fait de pouvoir échanger avec lui quand j'étais petit, lui dire mais t'es qui papa, alors qu'au final je le voyais souvent, même moi ça m'a marqué, papa est creusois, donc quand dire vacances heureuses, mais je me suis retrouvé souvent en fait avec lui à regarder des débuts de Grand Prix de F1 sans savoir qui il était vraiment, enfin ce qui paraît complètement dingue, mais parce qu'il était il détachait totalement sa carrière professionnelle à la fois avec sa vie de famille, et c'était carrément à ce qu'il prenne les télécommandes de la télé lorsqu'on était plongé dans le sport auto et qui monte avec les télécommandes et qui continue le Grand Prix là-haut. Donc il y a des moments, c'était assez comme ça, quoi. Ouais.
D'accord. Comment tu as connu son histoire? Par les amis, par ses amis qui t'en parlaient, par des trophées qu'il y avait, c'est quoi un peu le... Comment tu t'es dit, tiens, c'est quelqu'un, quoi.
C'est vrai. Bah, en fait, c'est ce qui est, ça paraît marrant, hein, mais bizarre, mais c'est vrai que c'est plus par l'univers avec qui je côtoyais dans le sport automobile que j'ai compris qu'il faisait partie de ces gens. Donc, dont Jacques Lafitte, Alain Prost, enfin, Jean Alési et d'autres, je pense, tu vois. Donc, tous ces grands pilotes du sport automobile que je côtoyais soit par des dîners de famille, des dîners entre amis, et que, et que je me suis dit, mais c'est marrant et tout, qui sont ces gens? En fait, le domaine sportif n'était pas forcément, tu vois, intégré dans mes valeurs dès le début, mais j'avais des notions. Mais là, je te parle de ça, j'avais 5-6 ans, hein. Enfin voilà, si on recontextualise un petit peu. Mais plus le temps passait, plus j'étais dévoré de cet univers-là. Je pouvais boire de ces paroles, vivre de ces moments, vivre de chaque instant du sport automobile, rêver, dormir, enfin voilà, de faire que de ça. Et c'est vrai que je me suis retrouvé après dans le sport automobile à vouloir en faire davantage. Et mon père était très inquiet, il voulait pas du tout, parce qu'il m'expliquait, à l'âge de mes 6-7 ans, j'ai compris qui était mon père. Et on m'expliquait, plutôt ma tante, c'est ma tante qui me disait, mais en fait ton papa il était coureur automobile et pose-lui des questions, ça lui fera marrer. Et petit à petit, il a commencé à partager plus ses moments, ses passions, tous ces moments de partage qu'il a vécu avec tous ces grands pilotes. Et puis ouais, on a vécu des moments incroyables.
Alors, il y a un moment où tu as été un peu à l'apogée de cette transmission, hein, où tu as eu... raconte-nous, qu'est-ce qui t'est arrivé avec lui, une histoire surprenante, aussi bien dans son contenu que dans la forme, la façon dont s'est déroulée cette journée, un petit peu point d'orgue de cette relation, de cette transmission.
Bien sûr. Alors, c'est vrai que si on part sur la base zéro, quand je faisais pas de sport automobile, ou du moins quand il ne voulait pas que j'en fasse, parce qu'il... D'abord, il m'expliquait, j'avais 8-12 ans, il m'expliquait que le sport automobile c'était très dangereux et que tous ses grands amis étaient décédés, donc, dont François Sever qui était un de ses très proches. Il m'expliquait que c'était 3 pilotes sur 4 qui mouraient à l'année, qu'il y avait des gros enjeux, que lui il avait eu un terrible accident au Grand Prix du Canada et qu'il ne voyait pas en fait imaginer un seul instant que ses enfants fassent du sport automobile. Donc je pense qu'il avait aussi une seconde passion, c'était à la fois la restauration. Il avait ouvert quelques petits restaurants avec son ex-femme, et avec Raphaël de Montrémy, c'était le Chalet des Îles, il y avait le Petit Pousset, le Mexico, la Méditerranée, enfin plein d'établissements comme ça. Et je pense que voilà, il aurait préféré plus qu'on soit dans un autre domaine que le sport auto. Mais voilà, pour essayer de l'expliquer plus en détail, j'avais 10-12 ans, je me suis dit à un moment, c'est pas possible, je veux vraiment faire du sport automobile. Et parfois, en Creuse, on se retrouvait l'été à partir le parrain de... Mon père était parrain, en fait, de Pierre Petit, et qui a un circuit dans la Creuse. Et c'est tout début que j'ai commencé à faire des petits coups de roue avec mon père sur un circuit de kart. Et c'est à partir de là où j'ai commencé à dévorer de ce sport. Et pour te recontextualiser, je suis retourné, en fait, en terre natale, creusoise, à partir directement sur circuit, à faire croire à mon père que mes parents étaient séparés depuis très longtemps et à faire croire à mon père que je partais chez ma maman, alors qu'au final je prenais un train pour faire mes premières fugues à faire du sport automobile avec Pierre Petit et son fils Paul. Donc voilà, donc j'ai commencé à faire mes débuts en Formule Ford, Formule Campus, et à un moment Pierre il a commencé à appeler mon père. Il savait pas en fait mon père que je roulais, donc du coup il a commencé à l'appeler, il lui a dit mais tu sais que ton fils il a un vrai bon coup de volant, tu devrais lui faire faire les championnats de France de F4, la Autosport Academy, il y a tout à faire, il est vraiment bon. Et puis là il est tombé de sa renverse, qu'il sache que j'étais pas chez ma mère et que j'étais au final en train de rouler et limer de la gomme, donc c'était extraordinaire, enfin voilà, il a dit, il était dévorant quoi.
Donc tu n'étais pas comme le pauvre Verstappen qui avait son père dans le dos tout le temps, au contraire.
Toi, non,
c'était ta vraie nature.
Ah ouais, moi j'étais...
C'était
ouais,
ta nature.
C'était ma nature.
Ta passion.
Ouais, exactement.
Ta passion à toi.
Ouais, exactement. D'accord. C'était ma passion
et,
à moi.
Et là, il t'a accompagné à ce moment-là.
Et à partir de ce moment-là, il m'a accompagné, il s'est dit... En fait, là, je passe sur un point de non-retour parce qu'il a vu que son fils, lui, il était bon et déjà, il a pu prouver à toute la France et au monde entier qu'il était bon dans son sport. Donc, s'il voit que son fils, il a été capable d'y arriver par ses propres moyens sans avoir une idolation de son père non plus, à attendre de quelque chose de sa part, il s'est dit, franchement, pourquoi pas lui laisser une chance. Mais il avait conscience du danger. Et une petite anecdote qui est très drôle, c'est que mon père, le seul moment, je crois, où son père est venu sur course, c'est la seule fois où il a eu son accident, je crois, au Canada, si je dis pas de bêtises. Mmh. Et il a toujours eu ce détachement entre chaque moment. Il y a le moment pro, il y a le moment famille. Et du coup, il s'est retrouvé à ne jamais vouloir m'accompagner dans le sport auto, par à la fois son audience et son image et sa notoriété, mais aussi parce que pour lui, c'était toujours dans ses valeurs d'enfance que quand il roulait, il n'y avait pas ses parents et que pour lui, il ne voulait pas me perturber dans le sport auto.
Donc
une
superstition presque.
La superstition. Ouais. Alors qu'il m'accompagnait beaucoup le week-end à m'aider en dehors les courses.
Il a rattrapé après.
Totalement. Oui. C'est qu'il a vu que je commençais à performer et que je commençais à faire des résultats intéressants. Et puis j'étais bien entouré. Je sais qu'il y avait un moment, j'étais coaché par Mathieu Vaxivière au tout début.
Et c'était un pilote avec qui je m'entendais hyper bien, qui m'a vraiment donné l'envie d'avancer encore dans ce sport. Et petit à petit, mon père commençait à regarder chaque résultat, chaque intention, chaque détail. Et c'est vrai que je me suis retrouvé en Italie à un moment pour faire mes tout débuts de sport auto. J'avais fait un championnat monoplace en Italie, régional. Et il voulait absolument, voilà, c'est vrai que quand il a vu que je commençais des championnats, il m'accompagnait déjà financièrement, mais il m'accompagnait aussi psychologiquement parce qu'il voulait chaque détail sur le carrossage, les suspensions, la géométrie de la voiture. Et ça, c'était assez impressionnant parce que j'avais autant de proximité, parce que j'étais fusionnel, on avait un amour passionnel entre mon père et moi, mais il y avait aussi une telle proximité dans le sport que du coup, on était à la fois meilleurs amis et père et fils. Donc ça, c'était magique.
Très intense.
Ouais, très intense. Et même pour te dire, c'est qu'à la fin, je lui ai envoyé des photos. Je me souviens, quand j'étais en Italie, je lui ai envoyé des photos des voitures de mes coéquipiers, en fait. Et je voyais, putain, moi, je suis quelqu'un qui est tellement compétitif, comme mon père, je pense, et qui me retrouvait à chaque fois à être envieux de me dire, mais pourquoi il freine plus tard? Pourquoi il va plus vite? Pourquoi il est 2 dixièmes ou 1 dixième plus rapide? Évidemment, il y a le côté roulage. Moi, j'arrivais, je prenais pas conscience de l'investissement qu'il fallait faire pour rouler, pour commencer à aller chercher les quelques millièmes de dixièmes de seconde. Et ça, c'était fascinant. Donc, je prenais en photo, au final, les carrossages, les réglages que j'envoyais à mon père, en fait, en France, quand j'étais en Italie. Et lui, il comparait, il me disait, ah, mais oui, mais normal, mais lui, il a plus de train avant que toi, il a plus de latéral, il a plus d'aéro. Et du coup, il me disait, moi, je disais, oh, yes, do the same for him. We do the same now. Donc, c'était drôle. Donc, c'est comme ça que j'ai un peu appris, vraiment grâce à lui, à gagner du temps. Parce que mon père, c'était un technocrate exceptionnel, extraordinaire. Je pense que ce qu'il a fait déjà avec Renault, c'était fantastique. Mais même de le partager avec moi, en termes de transmission, de passation, de savoir-faire et de connaissances, je trouvais ça c'était incroyable. Enfin, vraiment incroyable.
Et donc, il y a eu un moment très, très, très fort où tu es avec ton père et il arrive un truc dingue.
Ouais. Ouais, c'était... C'était dans la Creuse, du coup. On est retourné sur notre terre natale. Et en fait, Pierre Petit organise un événement qui s'appelle le Mornay Festival. C'est un événement axé beaucoup plus sur l'historique. Et Renaud était présent. Et il me proposait, en fait, il proposait à papa de rouler, à titre de démonstration, de rouler avec la RS01 et la RS10. Donc il y avait un début d'histoire en fait avec Renault Classique et Mornay Festival pour organiser un événement en Creuse avec les voitures de Jean-Pierre Jabouille sur ce circuit. Et c'était hyper beau parce que de les voir déjà rouler, c'est déjà unique parce qu'elles sortent très rarement. Ça appartient au patrimoine historique de Renault, donc quand on les roule, c'est vraiment avec des accords en interne avec l'équipe pour pouvoir que nous, on puisse, en tout cas les Jabouille famille, puissent rouler dessus. Et ça c'est extraordinaire. Et du coup, on s'est retrouvé, parce que moi, lorsque j'ai vu la première fois en fait les deux voitures de mon père, et de me dire putain, mais c'était quoi ces caisses de dingue, et d'avoir autant en fait un empattement pneumatique équivalent à une F1 d'aujourd'hui, c'était moi j'allais directement un peu dans le côté technique, le grip latéral, léger, l'effet de sol, qu'est-ce que ça sentait. Et c'est vrai que oui, moi j'étais en démonstration avec ma petite Formule Renault à côté, donc c'était sympa, quoi. C'était le week-end, donc du vendredi au dimanche. Et du coup, samedi, je termine ma session et je suis avec toute l'équipe Renault et je discute avec les gars et je leur dis, mais c'était quoi à l'époque? J'étais hyper curieux en fait, je voulais poser davantage de questions sur la voiture.
C'est tellement surprenant comme engin.
Ouais, bien sûr. Bah, 1500 cm3, le truc qui doit faire plus de 1200 chevaux pour 600-700 kg. Enfin, tout est en fibre de verre, il y a à peine à 10 km/h, on peut perdre nos jours. Enfin, il y a une telle curiosité à avoir, une incompréhension de se dire comment est-ce que ces grands pilotes pouvaient se battre au championnat du monde avec ce genre de catégorie de voiture.
C'est des voitures, je te coupe une seconde, bien sûr. Mais moi ce que j'en sais, c'est que c'était des voitures sans assistance surtout.
Oui, bien sûr. Il n'y avait pas d'assistance, pas d'ABS, pas de traction pas control, il n'y avait rien, pas d'airbag.
Ouais, ce truc, enfin, c'était vraiment extrêmement dangereux.
C'était très archaïque et très dangereux, ouais, exactement. Et du coup, je commence à un peu le questionner tout ça et il voit ma curiosité qui est tellement. Voilà, avec des yeux pétillants, je pense qu'ils y réfléchissent dans la soirée. Et puis, sans que je le sache, en fait, le matin, je me fais toquer par mon père, en fait, on frappe à ma porte. Et là, je me dis, mais putain, qu'est-ce qu'il fait et tout? Pourquoi il me réveille à cette heure-ci? En fait, il est 8h30, alors que normalement, la session de roulage, elle est à moi, elle est à midi, un truc comme ça. Donc, je me dis, bon, c'est pas grave. Et il me dit, ouais, lève-toi et tout, tu vas pas le croire, mais tu vas rouler avec la F1, tu vas rouler avec la RS01. Je dis, mais je te crois pas et tout, c'est pas vrai. J'y croyais pas une seconde. Tant que je n'arrivais pas devant la voiture et que je ne montais pas dans la voiture, j'y croyais pas. Et il me dit, non, non, je te jure, tu vas vraiment rouler avec la F1, avec la F1, la RS01. Et là, plus le temps passe, je commence à m'habiller parce que la session, elle était dans les 30 minutes qui suivaient, donc il fallait absolument que je m'habille vite. Et j'étais complètement dans un rêve. Et tant que je n'étais pas sorti de la voiture en ayant terminé la session, je pense que je ne me serais jamais dit qu'il s'était réalisé. Et ça, c'est un truc de dingue. Et d'autant plus fou, c'est que je vois en fait mon père qui est avec moi à ce moment-là et qui est très émouvant à mes yeux parce qu'il y a une vraie histoire de transmission. C'est que là, en fait, je me dis, bah, j'ai acquis déjà des soft skills, vraiment des skills pour pouvoir rouler ce genre de voiture. Renault me fait confiance. Et d'un autre côté, je vois mon père en fait qui est à côté en train de me regarder. Et là, je me dis, waouh, c'est quelque chose. Tu vois, je pense que d'autres pilotes, il n'y a pas de parallèle et de comparaison. Chacun, en tant que fils de grand pilote, peuvent avoir des émotions et des attentes. Mais je pense qu'il faut être expressif, il faut pas être introverti par rapport à ces choses-là et de le faire partager tu vois, à des auditeurs, des spectateurs, d'exprimer ces émotions-là. Je pense que j'ai jamais ressenti quelque chose aussi fort de voir mon père pousser la voiture alors que j'étais dedans. Et qui était dans le rétro. Et ça, c'est un truc de dingue, quoi. Enfin,
Quel cadeau,
ah
quel
ouais,
cadeau, quel
c'était
cadeau
magique.
formidable. Ah ouais.
Ouais.
Ça, c'est magnifique. Ouais. Et la transmission, elle n'est pas que dans la joie, que dans la facilité. Et des difficultés naissent aussi des choses très fortes et très importantes. Donc,
Ouais.
voilà, sans peut-être rentrer dans les grands détails ou dire des
Non,
noms,
ça me
mais
fait plaisir.
voilà.
Et tu sais que c'est bien qu'on en parle parce que souvent on peut idoler en fait une situation d'un fils d'eux qui récupère. Une histoire, une notoriété ou une image que son père a pu créer. Mais il n'y a pas que ça, c'est sûr. Moi, je vais essayer de frôler la limite de la sensibilité de ces moments parce que ce n'est pas facile,
Sûrement.
je suis encore dedans. Perdre un père, je pense que c'est jamais facile. Et quand on est jeune, c'est aussi des grosses responsabilités. Mais voilà, le sport automobile, pourquoi je le fais à titre promotionnel, c'est parce que j'ai dû m'occuper de mon père, parce que j'ai délaissé en fait ma carrière automobile pour lui. Je me suis consacré mon enfance pour lui, pour le protéger, ne pas être influencé par d'autres, et qui était ma seule raison de vivre en fait de mes 20 ans, de mes 19 ans jusqu'à mes 24 ans et jusqu'à encore en fait aujourd'hui. Et c'est vrai que c'était un combat. Il y a eu beaucoup de gens qui sont manifestés pour défendre les intérêts de mon père, ok, je leur en veux pas du tout parce qu'ils ont écouté en fait, ils ont écouté ma tante, voilà, si on va rentrer dans le cœur du sujet. Mais voilà, ils ont voulu porter et protéger ses intérêts, sauf qu'au final, une personne a voulu protéger plus, ma tante a voulu plus protéger ses intérêts que ceux de mon père. Donc ça n'a pas été facile, il a fallu que je me batte pendant 4 ans, et puis c'est d'où la raison aussi que j'ai lâché le sport automobile, parce que je devais intégrer la Renault Sport Academy. Il y avait des réelles opportunités pour le sport automobile, en tout cas pour moi. Mais à un moment, quand on se retrouve confronté à la réalité de la succession, des états de santé de son père qui sont totalement dégradants, il faut en prendre en compte, c'est des choses importantes. Et il faut surtout pas le laisser de côté en pensant que voilà, on est sur une vague d'opportunités, on est sur une vague de réussite. Il faut un moment avoir le retour à la réalité, parce que c'est vrai que ma mère n'était pas présente pendant toute mon enfance. Et c'est vrai que là, il a fallu que je m'occupe de mon père intégralement à 100%. Donc c'était pas facile, ouais.
Donc tu as compris dans ton corps presque, hein, vraiment, et puis dans ton histoire de façon, c'est ancré de façon très profonde, que la transmission, c'est recevoir et c'est donner aussi.
Oui, c'est recevoir, exactement, en fait, c'est extrêmement bien dit comment tu le dis, Bruno, parce que c'est donné aussi, parce que il m'a permis de faire du sport automobile, d'arriver à des opportunités auxquelles je pense vraiment que j'aurais pu aller loin. Maintenant, je le dis vraiment avec humilité, hein, parce que j'ai vraiment conscience qu'il y a beaucoup de jeunes pilotes qui peuvent y arriver aussi, et je suis porteur d'un message pour moi, c'est de remettre la méritocratie au cœur de la société constamment, surtout impliqué dans le sport automobile. Mais d'un autre côté, j'étais pas non plus perdu à me dire que je pouvais pas ne pas aller en F1 parce que j'avais déjà une notoriété, un nom, un réseau et le potentiel de pouvoir le faire. Mais par contre, mon père, il m'a permis d'en arriver là. Sans lui, je serais pas arrivé là. Et je pense que tous les fils d'eux aussi auraient été exactement pareil parce que voilà, c'est réel. Et je pense vraiment que mon père, quand je l'ai su qu'il était en position de faiblesse, il fallait que je sois là pour lui parce que sans lui, je serais jamais arrivé où j'en étais. Donc, ouais, il fallait que je sois à ses côtés. C'était mon père que j'aimais, c'est la personne que j'aimais le plus que tout le monde avec mon frère. Et on était le trio, on était le trio de la famille. Et pour rien au monde, quelqu'un serait capable de nous séparer. Et j'ai voulu défendre, me battre pour tous ses intérêts.
T'as fait le choix de la fidélité, du respect, c'est chouette.
Ouais, non, merci.
C'est beau. À ton âge, c'est pas très beau.
Excuse-moi de mettre un peu de d'émotion, je suis désolé.
Non, mais... c'est très bien.
Ça y a des... Voilà.
Tu parles de fils d'eux. Tout à l'heure, j'évoquais Nicolas Proust, Aurélien Panis, ou des gens comme ça qui sont un peu plus âgés que toi. Hein.
Ouais.
Tu es en contact avec ces gens-là? Tu les connais? Tu les fréquentes? Quelle est ta relation comme ça avec d'autres jeunes? Tu parlais aussi
bien
de...
sûr.
Tu parlais aussi de...
Et la Fitte aussi. Après, il y a Tambay aussi, je crois.
Voilà, enfin, il y a d'autres personnes dont je n'ai pas forcément les noms en tête, mais qui...
Et Pironi.
On pourrait penser... Bah, après, d'autres, voilà. Vous êtes un peu quand même aussi... Tu restes un peu en contact avec ces gens-là?
Ouais, c'est sûr qu'on ne reste pas indifférente quand nos parents ont une proximité depuis toute leur enfance. Là, je cite Jacques, parce que Jacques et papa, ils se sont rencontrés, ils avaient 13 ans. Donc, ils se sont rencontrés sur une patinoire. Donc,
ils se connaissent avant d'être... Ah oui, d'accord.
Ouais, sur une patinoire, si je dis pas de bêtises.
C'est Jacques Lafitte.
Oh, Jacques Lafitte, pardon.
Exactement. Les auditeurs qui ne sont pas forcément très au courant de la course.
Ouais. Ouais. Et Jacques Lafitte, était un de ses meilleurs amis d'enfance. Mmh. Qui a pu lui permettre d'arriver en Formule 1. Et papa, Jacques, c'était le mécanicien de papa à l'époque. Mais voilà, il y a eu des moments un peu dingues. Mais voilà, c'est sûr que... en se retrouvant en tant que fils d'eux, tu te retrouves aussi en étant conscience de ses valeurs et de ses histoires, et tu restes pas indifférent que le fils ou la fille du meilleur ami de ton père, tu restes pas indifférent que c'est quelqu'un qui restera proche de toi et que tu vis des moments aussi avec la personne. Donc je sais que tu vois, avec Margot, on n'était pas la même génération. J'étais beaucoup plus proche de Pierre, de Paul et de Zouzou, moi je l'appelle Zouzou, mais Joséphine. mais voilà, mais après, on a toujours été proches avec aussi Victoria Prost, les Castilles. Enfin voilà, on était une bonne bande de jeunes fils. On était dans un peu dans un écosystème et un cocon un peu idyllique. Mais ouais, on a vécu en interne des moments très drôles avec nos parents, et ça, c'était très sympa. Ouais. Et ce qui est drôle, c'est que tu vois la vie perso, mais que quand le socio-pro reprend le dessus aussi, quand tu te retrouves sur circuit, tu as vécu ton enfance avec ces gens, mais tu les revois aussi dans ce que tu veux entreprendre ou veux faire dans l'avenir demain. Et du coup, Margot, on se voit dans les paddocks de F1. Nico, on a roulé, on a partagé une F1 au Golf Historique ensemble. Donc on a à la fois au final cette sensibilité de proximité, et ça c'est hyper sympa, c'est hyper admirable, parce que souvent quand tu te retrouves sur les paddocks ou sur les circuits, t'as rarement les deux, en fait, famille plus socio-pro qui soient affiliés. Et là, quand t'arrives à aligner les deux, c'est génial. Enfin, je trouve ça super.
Ouais, c'est vrai que c'était la grande époque des pilotes français, parce qu'il y en a quand même plus tellement. Hein. Il y a évidemment Esteban Ocon et Pierre Gasly, mais d'abord, ils sont jeunes, ils n'ont pas encore de famille, ni l'un ni l'autre.
Ouais.
Et ils ne viennent pas de famille.
Bien sûr.
Ce ne sont pas des enfants de pilotes, même si... La famille de Cohn était un peu dans l'automobile, mais pas du tout dans le sport, visiblement.
Enfin, bien sûr.
J'en sais pas beaucoup plus. Mais voilà, donc il y a quand même une différence. C'était vraiment une époque incroyable, parce que Beltoise, Sever, Lafitte, Pescarolo, c'est des gens, ton père,
Villeneuve, Alio.
Villeneuve, c'est des gens qui étaient très proches, et on sentait quand même une solidarité incroyable, quoi.
Ouais.
Pescarolo, il gagnait pas vraiment beaucoup de courses. Mais il n'avait que des amis partout, quoi.
Ouais, c'est ça.
Un mec, il savait...
Pour jouer au golf, il était bon, hein, il allait en hélico, ouais, je crois. C'était pas mal.
Et puis il savait saluer tout le monde, aller féliciter ceux qui avaient gagné, consoler les autres. Enfin, il y avait un état d'esprit qui est quand même... alors, je sais pas si c'est...
Même Jean Ragnotti, hein, avec Jeannot, ils s'entendaient tous. Ils étaient proches, hein, tous. Hein, c'est
en
dingue.
Rallye,
hein.
En rallye, ouais. Alors, ouais. Ça, c'est quelqu'un, effectivement.
Ouais.
Il y avait aussi des connexions comme ça dans ça. Par contre, ça, je l'ignorais, tu
ouais.
vois.
Ouais, c'est ça.
Ouais. Par Elf, peut-être
Ouais, je pense que c'était par rapport à la filière Elf. T'avais cette bande, en fait, de franchouillards qui était vraiment dans les paddocks de F1 et même en dehors, qui était quand même très proche. Enfin, de ce que mon père me disait, c'est qu'ils étaient tout le temps, voire quasiment tous ensemble. Après, je sais que mon père était le plus introverti parfois et se retrouvait le plus discret et à rentrer le plus tôt.
Ouais, mais, c'est la réputation qu'il avait, oui.
Ouais. Mais ce qui est marrant, c'est qu'au final, les deux opposés, en termes de personnalité, étaient les meilleurs potes. Donc, Jacques, pourtant, c'était. C'était un vrai flambeur, un vrai kiffeur. Et ce qui est marrant, c'est que tu vois, ils se retrouvaient très proches entre eux. Donc ça c'est hyper sympa.
Complémentaire.
Ouais, très complémentaire. Exactement. Mais c'est peut-être pour ça qu'ils sortaient plus au final grâce à Jacques, papa. Mais voilà. Mais voilà, sinon, non, ils étaient tous très proches. Et ça, c'est ce qui est beau, contrairement aujourd'hui dans le sport auto. Là, il y a un peu de différence, si je peux citer, tu vois, je suis assez proche de Pierre Gasly, et souvent, tu vois, c'est un pote vraiment d'enfance, depuis nos 15 ans, on se connaît, et tu sens qu'en fait, tu as beaucoup plus de responsabilités médiatiques, d'enjeux sociaux et économiques par rapport à l'influence marketing, l'image de marque que tu dois mettre en valeur beaucoup plus, que tu es moins présent. Donc, on va dire que tu as, tu vois... On est tous proches au final dans le sport auto, mais pourtant on se voit beaucoup moins qu'à l'époque. Enfin, ça, je pense vraiment qu'à l'époque ils se voyaient beaucoup plus. Là maintenant, la F1 ou d'autres catégories, t'es beaucoup plus présent au simulateur, t'es beaucoup plus investi dans le team, à la fois pour l'image de marque que tu avais ta vie perso qui pouvait être un peu plus présente.
Et puis il y a plus de courses.
Ouais, ah, bien sûr.
Il y a plus de courses, comme tu dis, il y a plus d'obligations professionnelles et il y a plus de courses qui sont éclatées sur toute la planète. Ils sont obligés de faire beaucoup plus de déplacements, c'est sûr, c'est pas aussi simple. Hein.
Ah bah t'avais zéro middle east à l'époque, je crois. Mmh. T'avais aucun championnat, t'avais aucune course au Qatar, à Doha, t'en avais pas, donc ça déjà, tu ramènes 5 grands prix en plus, c'est sûr. Ouais.
Ok. On va parler de tout autre chose dont on n'a pas encore parlé.
Allez.
Quelle est la voiture que tu as préféré conduire? Je ne parle pas de la RS0.
Qui... Tu veux dire dans la vie de tous les jours?
D'abord dans ton... Oui, dans la vie de tous les jours, ça va m'intéresser. Mais bah... dans la voiture que tu as pu le plaisir de conduire, des voitures de course, vraiment laquelle tu dis, ah ça quand même, c'était quelque chose. Quoi.
Non, bien sûr. Non, mais c'est hyper... En fait, c'est... Je trouve que ça dépend beaucoup de ce que... Ça dépend totalement. Tu vois, la RS01, quand je l'ai conduite, l'émotion est différente, en fait. Quand tu te retrouves à rouler avec la F1 de ton père, c'est un rêve, tu n'arrives pas à y réaliser, mais c'est un truc qui tu te dis, c'est incroyable. C'est des sensations, c'est des palpitations, c'est un truc extraordinaire. Mais j'ai jamais exploité la voiture, je suis jamais cherché les limites. Tu vois, quand je suis pas rentré dans les détails tout à l'heure, mais j'ai fait 3 tours, mais c'était sous la pluie, j'avais les pneus slick. Donc, tu vois, j'ai été précautionneux. Mais derrière, j'ai différents souvenirs en termes d'expérience de conduite qui restent folles. Mais d'un autre côté, s'il y en avait une voiture que je pouvais prendre, waouh, là, ça reste quand même celle du week-end dernier quand j'ai roulé au Grand Prix de France historique. Là, la F8 de Fittipaldi. Elle était quand même extraordinaire, et tout le team GPX, ils ont fait une voiture parfaite, quoi. Ils ont fait une voiture fantastique, bien bien entretenue, et j'ai pris mon pied. Tu vois, c'est des notions que j'apprenais beaucoup plus sur l'effet de sol, que j'avais pas du tout en tête avant, et là c'était je pense que franchement ça faisait vraiment partie voiture. Moi je préfère, pour être honnête, dans toutes les voitures récentes, je les ai quasiment toutes conduites, vraiment, parce que je travaillais dans un club automobile à l'époque. Et ce qui me permettait de pouvoir... j'étais de la conciergerie, donc j'allais à gauche, à droite, chez les concessionnaires et tout. Donc je connaissais les voitures. Mais voilà, s'il y avait une voiture à ressortir, là franchement, de toute façon, dès que t'as... tu peux avoir une voiture de série pour un côté lifestyle, univers qui est sympa. Enfin, j'adore, tu vois, tout ce qui est racetrack. Et je sais que si tu me mets des pneus slick et que t'es sur une belle piste avec du dégagement, je vais choisir directement la voiture de course, quoi. Mais voilà, donc c'était la F8 en tout cas, moi, ouais. Et je pense qu'en sensation et en souvenir, là, qui va se passer bientôt, je vais faire le club 500 contre Ferrari contre le Cancer, je crois, au Vigean. Et là, il y aura encore beaucoup de choses à faire, mais je vais rouler avec la Morgane que papa, du coup, comme tu vois le casque, en fait, que papa avait fait avec
casque.
Ouais. Ouais. D'accord. Et là, GT3, du coup, la Morgane Aeromag GT3. D'accord. Donc, je pense que ça va être une voiture que je serais très curieux, mais ça reste la F8.
Il y a Margot qui a couru en Morgane.
Ouais, ouais, ouais. Bah, sur la voiture, tu avais Margot, Jacques et papa.
On va en parler. Et la voiture de tous les jours, alors, vraiment, tu te dis, je m'ennuie pas avec, ou je suis content de la rouler, ou...
Le meilleur, ouais. Vu que j'habite à Paris, souvent, tu cherches beaucoup le confort. Parce que les nids de poules, merci Hidalgo, mais bon, va falloir faire un effort. Mais sinon. En termes de confort, ça va être hyper égoïste, hein, je suis sûr, parce que c'est vraiment, moi je me base sur le confort, Mais les dernières Bentley, elles sont extraordinaires. Enfin, les dernières Continental GT, elles sont extraordinaires. Alors que j'étais le premier, quand j'étais jeune, à trouver que c'était assez pâteux, très beau, enfin, tu vois, très, très, très gros, quoi. C'était pas du tout mon style. Donc, je te dirais, en termes de confort, ce serait une Bentley, Continental GT. Et après, si ce serait une voiture un peu plus sportive, je suis fan de Ferrari, donc je te dirais forcément
Ah oui,
une
d'accord.
F12 ou une 812, que j'ai aussi conduite, et c'est aussi sympa, quoi.
Et ta voiture de tous les jours?
Voiture de tous les jours? Qui affilie sportivité et confort?
Non,
Waouh!
celle que tu as.
Celle que j'ai moi tous les
Ta
jours?
voiture.
Ah, j'en ai pas.
T'as pas de
Non,
voiture.
j'ai un scooter
Ah, ben
à
ça,
Paris.
c'est génial.
Ah là,
Malin
j'étais.
fou.
Oh, ouais, c'est pour ça, je suis en deux roues à Paris parce que sinon, je t'en sors pas. Mais voilà, après, je dis à moi, hein, titre perso, mais voilà,
Ouais.
mon père a des voitures, maintenant je m'en occupe, mais voilà, ça c'est un
D'accord,
autre sujet.
donc tu n'as pas de voiture.
Non, moi j'en ai
Attends,
pas. À mon nom, j'en
il n'y
ai
a pas
pas
de
à mon
carte grise au
nom.
nom du temps
Non, à d'autres, mais pas à mon nom.
Jamboui.
Voilà, je veux vraiment me construire par mes propres moyens. Je sais pas si c'est suite à un jugement auquel je me suis retrouvé dans des situations délicates que je veux me construire par mes propres moyens et que je dissocie totalement entre, même pour moi, mon perso, c'est mes valeurs. De ce que je me construis moi-même, je le fais par mes propres moyens. Si je m'achète une montre, je porterai ma montre. Si mon père a eu ces choses, mais je les porterai pas, ou du moins ça fera partie d'une collection privée, mais pas du tout par rapport à ce que je porterai moi. Je ne me verrai jamais au final avec un truc de mon père qui sera voilà, sur mon poignet, ou je sais pas, tu vois. Ou au volant. Voilà.
D'accord, bien, bien. Alors, tu as la gentillesse de me porter deux casques, de me
Ouais.
montrer deux casques étonnants, hein, que j'ai eu la chance de voir sur ta tête
Ouais.
que tu portais au Grand Prix historique sur le Ricard. Qui est plein d'inscriptions très intéressantes, et puis un autre qui est un casque de ton père. Donc, est-ce que tu peux nous les présenter un peu? Alors, sachant que
Bien sûr.
c'est de l'audio, donc
Ouais.
voilà, il faut que tu. Puis on les mettra quand même en photo sur le site
Ouais, avec plaisir.
pour qu'on puisse les voir.
Alors,
Donc, on
pour
commence par
moi,
le tien.
ouais, on commence par le mien. Pourquoi le mien et pourquoi ses couleurs? Donc, il y a du bleu, il y a du rouge orangé. Et en fait, directement, je suis allé contacter Amato et je leur ai dit, ils voulaient qu'on module un casque ensemble. Et moi, je voulais faire un casque hommage pour le week-end du Grand Prix de France. Et on voulait totalement faire une réédition néo-rétro du casque du design de mon père, qui était bande bleue sur le central, avec quasiment du rouge omniprésent sur l'intégralité du casque et une bande blanche au-dessus. Et moi, je voulais garder ces couleurs-là parce que pour moi, c'est mes valeurs d'avoir. Sans mon père, je ne serais pas là où j'en suis, je pense. Voilà, donc, ou je serais peut-être autrement, mais je n'aurais peut-être pas ces couleurs. Donc, ça me paraissait important de créer cette connotation, ce signe de démarcation entre mon père et avec du néo-rétro, donc des lignes à la fois dynamiques, mais pas trop. Et puis voilà, j'ai voulu faire aussi quelques petits détails. Moi, mon numéro, c'est le numéro 14. Donc, tu vois le V. Qui est en bleu, mais d'un autre côté tu vois le J, en gros sur certains détails, tu vois, ça peut faire un V et un J aussi. Et tu as le
Donc tes
numéro,
initiales.
ouais, mais les initiales, V Jabouille. Tu vois le Jabouille aussi, la police elle est faite de la même façon que celle qui était à l'époque de papa.
Ouais.
GPX qui est mon team avec qui je roule, on a voulu le mettre ici parce qu'à l'époque, quand il roulait, c'était les époques des casques GPA. Et du coup, GPA pour faire un peu le petit détail, qui était la même police.
D'accord.
Le numéro 14. Le numéro 15 qui est juste ici, de l'autre côté de l'aileron, qui est celui de mon père. L'hommage, petit détail d'Antoine Hubert, est à la date de décès de papa aussi, 02-02-2023, qui était importante à souligner. Mais tu as surtout au-dessus de la bande blanche, tu as tous les rappels en fait, de tout son palmarès dans le sport automobile. Et on a repris la même police, au final, les gars d'Amato, ils ont géré. Ils ont repris la même police que celle qui est dans le Grand Prix de France. Du coup, tu vois, bah, 1979, vainqueur du Grand Prix de France, 49 départs, 3 écuries, 1980, 2 pole positions, 1980, tu vois encore vainqueur du Grand Prix d'Autriche. Donc tu vois, tu as eu 2 pole positions, 2 victoires. Donc c'est ce qui est cool. Mais pourtant, c'est pas. Ouais, voilà. Donc tu as plein de petits détails. Tu vois, 1979, 4 pole positions. Donc voilà. Et après, tu as tous les partenaires. Ouais, c'est un casque qui est vraiment hommage. Et évidemment, sur le pare-soleil, tu vois, sur le bord de route, on a mis le Jabouille en avant. Parce qu'à l'époque, papa, il avait aussi son gros jabouille comme pare-soleil. Ouais, je trouve ce casque
Est magnifique.
magnifique. Ah ouais,
Il est
c'est.
très éloquent. Et rien qu'en le regardant, puisque je t'ai rencontré grâce à ça, en fait. Parce
D'accord.
que j'ai fait une photo
Sur la pit lane?
sur la pit lane, puisque même pas sur la pit lane, sur le gatewalk.
D'accord, ok.
T'étais vraiment en train de, en préparation, tu étais déjà dans la voiture, et je m'amusais à faire quelques photos un peu par-dessus, tu sais, parce que mon regard de photographe qui fait que je voudrais que le photographier par-dessus, ça donnait un angle un peu particulier, et puis d'un seul coup, j'ai vu toutes ces inscriptions sur ce casque, j'ai vu Jabouille, je me suis dit, mais attends...
Ouais, la voiture jaune derrière, c'était pas différent.
Il y a quelque chose, il se passe quelque chose. Voilà, et j'ai tout de suite compris qu'il y avait... que le lien,
ouais, le lien était
important
était
pour toi. Voilà,
bien sûr.
Important pour toi. Et c'était tout de suite très très clair. Quoi. Il est très bien fait ce casque.
Ah, les gens, ils étaient vraiment en admiration.
Très parlant, très réussi. Vraiment très très réussi.
Et puis il y avait du monde devant la voiture. Franchement, c'était une noire de monde. Donc,
c'est sûr.
Tant mieux que c'est
créé. C'était plus toi que la voiture qui attirait presque.
Ouais, c'est vrai.
Parce que la voiture elle-même, bon, c'était pas la plus spectaculaire
du plateau.
Du plateau, parce que. Bon, il y en avait d'autres qui étaient un peu plus connus, un peu plus récentes, voilà. On ne la connaissait pas forcément. Elle mérite beaucoup d'intérêt, mais ce n'était pas,
bien sûr.
Le truc. Mais tout de suite, là, tu avais... Et puis bon, par ta prestance, par ta présence aussi, enfin, il dégage quelque chose. Mais là, tout de suite, on voyait qu'il y avait,
un truc
particulier.
Bien sûr. Et puis, bah, tu as le deuxième casque aussi.
Et son casque à lui, alors.
Ouais, donc tu as le casque de papa, Jean-Pierre. En fait, lui, ce casque, c'était à l'époque quand il roulait en GT3. Je crois qu'à l'époque, ça s'appelait le GT Tour, si j'ai pas de bêtises. Donc, c'était Stéphane Rattel qui avait créé ce premier championnat, qui est devenu le Blancpain GT Series et qui est devenu, je crois, toujours maintenant le GT Open. Du coup, ce championnat était le premier championnat de GT3 à l'époque des constructeurs officiels, où t'avais Audi officiel, t'avais Porsche, t'avais Viper, t'avais un grand nombre de constructeurs. Et en fait, c'était son casque quand il roulait en GT3, à l'époque de la Morgan. Mon père, en fait, ce qui est marrant, c'est qu'il a roulé, il a conceptualisé, il a créé un team avec la banque Barings Tourza, Jacques Lafitte et papa. Et ils se sont dit, on va faire une voiture de course avec un châssis en bois. Donc voilà, déjà, il faut être zinzin, mais il s'est dit, vas-y, on va le faire. Donc mon père, il était complètement... Enfin, attention, je ne veux pas être grossier, je l'adore, mais il partait dans des idées parfois complètement gargantuesques. Il partait dans des idées. Mais c'est ce qui lui a fait sa grande réussite, parce qu'on le prenait pour un fou, mais au final, il y arrivait. Et c'est vrai que... voilà, du coup, ce casque que tu as, tu revois au final les mêmes couleurs, tu vois, le même bleu,
c'est très réussi.
Le même orange, tu vois, rouge-orange, et les bandes blanches, tu vois, du coup, tu as. Mmh. Et c'est hyper bien fait. C'est hyper, hyper bien fait. Mmh. Et du coup, ce casque, eh ben, c'est quand il roulait à l'époque avec Morgan. Et il y a eu un vrai combat, parce que ce team, c'est le premier... pilote a monté une écurie de course avec un autre pilote français de F1 et qui se retrouve au final à gagner le Grand Prix de Silverstone en GT3 avec Maxime Martin, si je dis pas de bêtises, grand pilote aussi qui, je crois, il est officiel Aston Martin et il était BMW. D'accord. Et qui a permis de faire de belles victoires. Et ça s'est arrêté rapidement, parce que je crois qu'il y avait des difficultés d'homologation sur la voiture, parce qu'il y avait des problèmes de nuisance, les échappements faisaient trop de bruit, donc il y a eu des petits soucis.
Déjà.
Mais c'était une voiture fantastique, et c'est une voiture de course déjà que je vais peut-être pouvoir rouler en juin pour au Vision.
Ah, super.
Ouais, mais il est beau, hein, franchement, très très beau.
Et tu en as d'autres de casque de ton père?
Ouais, j'en ai d'autres. J'en ai de ceux quand ils roulaient en F1. J'ai des trophées aussi. J'ai des trucs. Ouais, j'essaie de conserver ces combinaisons aussi, ces gants, ces chaussures. J'essaie de conserver un peu son patrimoine pour soit faire une collection privée ou du moins faire un bel hommage pour nos générations futures. Et ça reste important pour moi. Ouais.
Mais tu vois, on arrive à trois quarts d'heure d'entretien. On avait dit qu'on en fera 10 minutes. Je pense que les gens seront très contents d'entendre beaucoup de choses, parce que c'est vraiment passionnant. Mais écoute, je te remercie vraiment pour ta confiance, pour la qualité de ce que tu as pu dire, ce que tu as pu nous transmettre.
Merci Bruno.
De fait, nous transmettre. Hein. Et un grand merci.
Merci à toi Bruno.
Merci beaucoup.
Très vite.